Encore un jeune qui est mort d'avoir pris de l'extase.
Ça commence à me faire chier d'entendre ce genre de truc-là.
Certains jeunes ne reçoivent pas l'éducation qu'il faudrait.
Je pense franchement que le problème n'a rien à voir vis-à-vis des gamins qui écoutent de la techno.
T'as du jungle, là ?
Il y a Tarzan et Jane qui viennent d'atterrir par la première liane du matin.
Faut-il réglementer ces rêves parties ? Qui sont leurs adeptes ? Que recherche-t-il ?
Putain, mais qui vous êtes, vous, franchement ? Hein ? Qui vous êtes ? Hein ?
Hein ? 19h le jeudi, c'est Modulaire, une émission qui décortique toutes les nuances de la musique électronique sur Prune.
Bonsoir tout le monde, vous êtes dans Modulaire sur Prune, et ce soir ça va être une émission un peu spéciale, puisqu'on va parler d'univers visuel, d'identité graphique, et d'un label en particulier, Ninja Tune, et encore plus particulièrement du duo Bicep, qui nous a réservé quelques belles actualités récemment. Autour de la table, autour de nos PC plutôt, on a qui ce soir ? On a Raph. Salut Raph.
Salut Nico.
Hortense.
Salut.
Et François.
Salut à tous.
Salut, on est donc 4 ce soir, on va parler donc voilà d'identité visuelle et musicale, essayer de mélanger un petit peu les deux, et c'était un peu l'essence de base, la base de Ninja Tune avec le duo Cold Cut, qui on va dire ont également travaillé avec Ecstatic, et en fait ils avaient bossé au début des années 90 sur les liens qui pouvaient exister entre le visuel et la musique. Et ils ont créé donc Ninja Tune pour pas que ces raisons-là, ils ont essayé de faire connaître, on va dire, les musiques underground de l'époque, donc ce qui était fin 80, début 90, c'était hip-hop, trip-hop qui émergeait, et l'électronique par-dessus tout. Et donc ils ont créé ce label, Ninja Tune, et ce qu'ils ont essayé de faire, donc dès le début, c'était voilà de mélanger tout ça. Et au final, je vais revenir un peu sur mes plans, les gars, d'ailleurs, je vais pas passer Bicep pour commencer, mais je vais passer, je pense, Cold Cut avec Timber. Timber, on va l'écouter. C'est un mashup en fait de sons, on va dire naturels. C'est un mélange de tout ce qui peut se passer dans une forêt. Donc il y a des bruits des oiseaux, des feuilles, des tronçonneuses aussi, parce qu'il y a des bûcherons qui travaillent. Et en fait, visuellement, ils ont retranscrit toutes ces images, ils les ont mélangées pour en faire un clip, mais aussi le son en fait. Ils ont bossé tout ça en même temps. Je vous invite à regarder le clip parce qu'il est ouf. Donc de Cold Cut, Timber, et on va écouter ça en tout cas sur Prune dans Modulaire tout de suite. Thank you. C'était Timber de Cold Cut et Ecstatic également. On bossait un peu sur ce projet aussi. Et en fait, là, vous l'avez entendu, c'est plus donc lié dans l'univers, on va dire, de la scierie, des tronçonneuses. Et c'est vraiment des samples de tronçonneuses quoi, qui ont été utilisés, ouais, avec des chants ethniques. Exactement, des solos de tronçonneuses. Et en fait, c'est retranscrit visuellement. On voit vraiment la loupe du mec qui tronçonne son arbre et qui est aussi bah, ce qu'on entend au final. Donc c'est vraiment un travail voilà, de liaison entre l'univers visuel et l'univers musical.
Ça rend ça encore plus dynamique en fait quand on regarde le clip. Enfin, à un moment, il y a un duo pelleteuse tronçonneuse, c'est vraiment le peak time quoi. C'est bel échange.
Ben, c'est vrai que le regarder c'est toujours plus intéressant. Après, la musique elle est tout aussi bien à écouter, hein, mais les deux en même temps c'est vraiment ce qu'ils recherchaient quoi. Les liens de ces deux médias.
C'est une révélation pour moi parce que j'écoute ce morceau depuis au moins 15 ans et je savais même pas que. Il y avait un clip avec les samples de base, quoi, que c'était des samples vidéo, du coup, ça qui est impressionnant, quoi.
Et alors, du coup, vu que t'avais jamais vraiment regardé le clip, tu avais quand même décrypté qu'il y avait des sonorités un peu liées à la tronçonneuse.
Ah, j'avais pas tilté que c'était une tronçonneuse, ah, sincèrement. Quand on la voit, on fait ok, mais ils l'ont tellement compressé, ils ont enlevé le côté désagréable, donc.
Et puis ils l'ont loupé, donc ça dure quoi, une demi-seconde à chaque fois, même pas, je sais pas.
Ouais, mais c'est étonnant, c'est un peu comme je viens de redécouvrir le morceau comme si je l'avais jamais entendu, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça peut aussi être une autre expérience comme ça. Mais c'est vraiment, c'est le taf de Ecstatic qui, sur beaucoup de leurs albums, au final, on crée des médias vidéo, créé des DVD en même temps qui sortaient les CD. Donc ça, c'est, on va dire, les bases de Ninja Tune et qui peut être un peu le rendez-vous visuel et sonore. Et maintenant, il y a Bicep, on va parler de Bicep, et je crois que Raph, t'as quelque chose à nous présenter qui est tout frais.
Ouais, bah, complètement, c'est drôle, on a décidé du thème la semaine dernière ou il y a deux semaines. Et Bicep, du coup, ont sorti un morceau il y a deux jours, donc c'est le troisième extrait de leur prochain album qui va sortir le 22 janvier. L'album, il s'appelle Isle. Là, je vais vous passer la track qui s'appelle Saku. Et donc Bicep, ouais, c'est toujours dans l'esprit Ninja Tune. Le visuel est assez important dans leur conception, même dans leur live. Donc là, on va écouter Saku de Bicep. donc c'était Saku par Bicep en featuring avec une chanteuse qui s'appelle Clara Lassan. C'est une chanteuse aussi de Soul R&B qui est basée à Londres. Elle n'a pas fait le projet solo, mais elle pose sa voix généralement sur des projets un peu électro. Donc Bicep, comme on disait, c'est un groupe aussi attaché au visuel. Là, par exemple, c'est juste la track pour un extrait du prochain album. Mais même sur YouTube, il y a quand même une animation sur cette track-là qui a été travaillée spécialement depuis les premières tracks sorties pour le prochain album. Il y a vraiment une identité visuelle qui se décroche de tout ça. Et je vous conseille d'aller checker leur chaîne YouTube qui est pas mal fournie de beaucoup, beaucoup de leurs tracks. Et notamment récemment ils ont sorti une vidéo avec le réalisateur de leur dernier clip pour la track Apricot, justement qui décrypte le clip qu'il a fait, donc ça prouve vraiment que c'est un groupe qui est attaché à ça, comme Cold Cut qu'on a écouté avant, et donc qui cherche à partager au public leur vision globale de leur œuvre.
Ouais, c'est ça, et j'en parlerai un petit peu plus en détail après, mais au final, c'est quasiment des concept albums parce qu'ils ont bossé avec des studios de création portugais en l'occurrence, et ils ont un tout nouveau concept, comme tu le disais, pour ce nouvel album. Et en 2017, quand ils ont sorti leur premier LP, c'est pareil, ils avaient déjà un concept ultra fourni. Enfin, bref, on en reparlera un petit peu après. Je crois que Hortense, c'est à toi.
Oui, moi je vais faire un voyage dans le temps en 2017 pour vous parler de Nabiha Iqbal, bon pas de H, hein, Iqbal avec un I au début, et donc le titre Eternal Passion qui est sorti sur l'album Waiting of the Heart, et bon, c'est tout de suite dans Modulaire et c'était sur Ninja Tune aussi.
Yeah.
Nabiha Iqbal avec le titre Eternal Passion qui est sorti en novembre 2017 sur l'album, donc son premier album, Waiting of the Heart, donc la pesée du cœur, donc chez Ninja Toon. Et moi je vais vous parler de la pochette. Alors déjà, niveau musical, je pense que vous avez entendu, c'est pas tout à fait pareil que... Enfin, c'est pas trop dans la ligne, je trouve, de Ninja Toon. C'est limite trop doux, j'ai l'impression.
Ah ouais ?
Ouais, mais justement c'est surprenant. Enfin, en fait, récemment, je trouve qu'ils sortent pas mal de choses un peu plus subtiles, mais j'aime bien.
Ouais, enfin, bah, carrément. Ouais. En même temps, Ninja Tune, ils ont tellement d'artistes. C'est
oui,
ça,
voilà, c'est ça. C'est difficile de dire, en fait, qu'ils ont, dans un sens, une ligne un peu directrice. Et moi, je vais parler de la pochette, en fait. Donc, c'est un peu... C'est dessiné, on dirait, comme en trait unique, en fait, la technique de dessin. C'est un fond blanc et un trait noir. Et on a le dessin d'un personnage sur une balance. En fait, c'est une référence à l'épreuve de la pesée de l'âme dans les croyances égyptiennes. Il y a une balance à deux soucoupes qui compare le poids de votre cœur, donc qui est le siège de la conscience, des pensées et de la mémoire, au poids d'une plume. Si votre cœur est égal au poids de la plume, vous pouvez accéder au monde divin, donc la vie après la mort. Et dans l'autre cas, si votre cœur est trop lourd, donc que vous n'avez pas respecté les principes moraux durant votre vivant, votre âme sera dévorée par une divinité crocodile qu'on appelle la Grande Dévoreuse. Et donc en fait, ce rituel de la pensée de l'âme, on l'appelle aussi le jugement d'Osiris, en fait. Donc le défunt arrive, ou la défunte, arrive après sa mort devant Osiris et quelques divinités en plus. Et c'est souvent représenté, en fait, dans les tombeaux et plus précisément dans les papyrus. Et si on se concentre sur la pochette, en fait, la représentation de la pochette de l'album choisit, en fait, de se concentrer... soit, donc je suppose que c'est recto verso parce qu'il y a deux illustrations sur internet, soit donc ce que je suppose être le verso, juste le haut de la balance, en fait, qui représente une figure féminine coiffée d'une plume, soit sur l'objet de la balance, l'objet balance elle-même, que je suppose être le recto. Donc c'est une scène classique qui prend une place, en fait, beaucoup plus précise. Là, on est juste sur la balance, et je me suis demandé, en fait, ce que ça pouvait bien vouloir dire. Donc je me suis risquée à une interprétation que j'ai menée ainsi. S'il n'y a ni dieu, ni bête dévoreuse, ni même le corps de la personne défunte, ce qui nous intéresse, en fait, c'est le résultat que seule la balance donnera. Donc c'est peut-être... Ce qui a voulu véhiculer, en fait, la recherche de la pochette. Et donc, pour préciser ce que je voulais dire, je peux rajouter que, bien que le dessin puisse sembler simpliste, donc un seul trait, il respecte, en fait, le code de représentation de la scène mythologique, mythologico-religieuse. Mais ce qui diffère de la représentation classique, comme nous venons de le dire, en fait, c'est le zoom sur l'objet de la balance, qui sera, en fait, le juge objectif de votre cœur après la mort. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette pochette, par exemple, mais je trouve que avec les morceaux, donc je les ai tous écoutés, et même juste avec celui-ci, bah, ça fonctionne bien.
Ouais,
c'est
ça...
assez léger.
Ça prend corps avec... Ok. Si, la pochette est très simple, mais en même temps, elle est marquante, en noir et blanc, avec ce trait...
Ah, c'est extrêmement précieux, oui.
Non, ça rend bien. Et alors, est-ce que j'ai pas remarqué, est-ce qu'il y a pas un petit diamant sur la balance qui aide un peu? Ok.
C'est normal,
pas de la triche.
En fait, non, et il est sur toutes les représentations, en fait, et donc la figure féminine aussi, et c'est quasiment du copier-coller, en fait. C'est pour ça que je trouvais ça assez rigolo, surprenant. Il y a pratiquement aucune libre interprétation.
Okay.
De ce point de vue-là, c'est limite. Donc vous pouvez chercher sur internet, donc soit l'épreuve d'Osiris, soit la pesée de l'âme égyptienne. Et en fait, l'objet de la balance, le plus souvent, est représentée comme ça. En fait, il y a que la figure au-dessus qui change, qui diffère, et le plus souvent c'est ce qu'on devine être une figure féminine avec une plume qui l'a, quoi. Donc c'est en même temps tradition et modernité, je sais pas, mais du coup ça correspond bien.
Ok, non bah en tout cas merci pour ta belle description.
Bon, de rien. À qui de droit pour prendre la parole?
Ça va être moi pour vous parler de Damon Tobin, donc un artiste beaucoup plus ancien sur le label. Une des grosses signatures, on va dire, historiques. Puisque là, je vais vous passer le morceau Slowly, donc qui est sorti il y a 20 ans et qui était sorti sur l'album Super Modify, donc qui était déjà le quatrième album Damon Tobin sur le label. Donc autant dire que c'est quelqu'un de très prolifique et qui a été très apprécié par l'équipe qui a créé le label, donc les deux de Cold Cut. Et son univers, lui, a été directement très marqué, puisqu'il a un logo avec une typo un petit peu futuriste, enfin ce qui était un peu futuriste pour l'époque, et avec des pochettes d'albums vraiment marquées, avec des sortes de vaisseaux, on ne sait pas trop ce que c'était. Mais voilà, il y avait un petit peu ce côté voilà, science-fiction qui était très marqué. Et sur cet album, il avait un petit peu justement amené ça, c'est-à-dire vraiment tout un univers assez, assez spécial qui faisait un écho au trip-hop. Mais avec son côté toujours drum and bass, donc il y avait un petit peu un côté mélancolique, futuriste mélancolique. Et on va écouter le morceau et je vais vous parler de deux autres choses après. Mais ça serait plus intéressant d'écouter le morceau Slowly d'abord. Oui, on vient d'écouter Amon Tobin Slowly, et donc il est 19h34, enfin il sera 19h34 quand vous entendrez la voix en direct, puisque nous sommes en enregistré. Et donc voilà, Amon Tobin, hein, on fait une émission donc, qui est très, enfin qui est liée à Ninja Tune et à leur aspect visuel, avec la sortie du nouveau Bicep. Et Amon Tobin a été très important en fait pour l'aspect aussi digital. C'est-à-dire qu'il a amené des expériences multimédia à l'époque où les gens ne le faisaient pas trop. Et il a surtout fait un concert avec un mapping exceptionnel, toute une tournée pour la sortie d'ISAM. Et on avait un mapping complètement dingue fait de cubes. Donc quelque chose qui rebondissait un peu sur ce qu'avait fait Étienne de Crécy à l'époque, mais qui l'a poussé à un niveau voilà, largement au-dessus.
Ah oui.
Il était pareil au milieu de plein de cubes, mais là on n'avait plus du tout un côté deux dimensions, c'était vraiment un côté trois dimensions avec chaque cube, avec des projections complètement dingues. Et j'ai eu la chance de le voir à l'Olympia, donc en plus dans une salle assez spécifique, mais il a fait une tournée une tournée même dans des festivals armés de ça. Donc il a vraiment justement voulu amener ça, comme Étienne de Crécy le faisait encore une fois, en dehors des salles, et démocratiser d'une certaine manière le mapping, avec tout ce que ça implique comme complications hein, en termes de production, etc. Mais c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et qui tient à cœur à Ninja Tune, hein, j'ai l'impression, puisqu'on le voit qu'à travers tous leurs artistes qu'on vous présente ce soir, et on pourrait faire une émission de 10 heures dessus, l'aspect visuel est très important, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire une émission énorme dessus, malheureusement on n'a qu'une heure et ça va être short, on va essayer de faire au plus vite. Et bah du coup, justement pour revenir à l'aspect visuel, toujours en restant chez Ninja Tune, je vais parler de Bicep. Je vais reparler de Bicep, et au final ils ont sorti leur premier album il y a 3 ans de ça, avec donc l'album éponyme Bicep. Et à l'époque, ils avaient déjà, comme tu le disais au final François, bossé énormément le visuel. Peut-être un peu moins le côté numérique, parce que j'ai pas vu leur live, mais en tout cas c'était surtout le visuel à proprement parler. Et pour ce faire, ils avaient fait appel à 4 studios, en tout cas 4 collectifs de créateurs portugais. Xesta Studio, Lift Creative, Anatypes Type et The Royal Studio, qui à l'époque avaient bossé sur... En fait, ils étaient partis d'un postulat de base, c'était comment retranscrire visuellement la musique sans être bloqué dans une précision extrême, sans être... voilà, au final, retomber dans ce qu'on pourrait appeler un signal sonore ou quelque chose de purement technique. Et eux, en fait, ce qu'ils avaient imaginé, c'était un système au final ambigu, pluriel, parce que voilà, le ressenti au final, c'est une émotion. Parce qu'en effet, une personne peut ressentir la musique via le rythme, une pulsation rythmique, l'autre peut ressentir les basses vibrer à travers sa poitrine. Donc voilà, chacun a sa façon de voir, de ressentir la musique. Et eux, ils étaient partis un peu de cette idée. Donc de mélanger un peu tous ces ressentis et de créer quelque chose d'ambigu, mais en même temps qui pouvait parler en écoutant la musique de Bicep. Et au final, ce qu'ils ont créé, c'est que ils se sont regroupés, parce qu'à la base, c'est beaucoup de créateurs différents, ils viennent de mondes différents. Donc Types, Anna Types, j'ai pas vérifié, mais qui a dû bosser sur la typographie, qui est quelque chose d'une typographie assez simple, assez droite, enfin simple, je m'entends, hein, mais en tout cas droite et anguleuse. Et derrière, ils ont mélangé des visuels, on va dire, organiques, donc avec deux couleurs principales. Le jaune, un jaune acide, assez fluorescent, et un bleu profond. Et le tout mélangé avec la typo, ça crée quelque chose, un collage de peintures multiples. Je vous invite à voir la pochette de Bicep, du premier album. Et tout ça, tout ce collage, ça pouvait traduire les variations infinies de la musique de Bicep. Et en l'occurrence, ils ont bossé sur Aura. C'était un premier single de l'album qui était sorti. Ils avaient bossé sur une typo assez impact, enfin, avec un gros impact pour Aura, parce que la musique, voilà... En l'occurrence, Aura a été énorme, il y avait une grosse basse qui était ultra présente. On va écouter tout de suite, comme ça vous allez déjà vous faire une idée sonore et pourquoi pas visuelle en même temps. Donc on écoute Aura de Bicep tout de suite dans Modulaire. Icep, sorti sur leur premier album il y a 3 ans, en 2017. Et ce que je disais, ouais, c'est que dès cette époque, au final, ils avaient déjà imaginé un album concept, visuel, musique. Et ils ont réitéré, donc avec leur prochain album, là, qui sortira le 22 janvier prochain, avec Isles, en anglais, et avec le même studio, au final, avec le même studio, les mêmes créatifs, en tout cas.
Ah, c'est les mêmes, je savais.
Ouais, ils se sont regroupés, ils sont plus sous les noms que j'ai donnés auparavant, mais ils sont sous un studio de design qui s'appelle De Gros. Alors, il n'y a peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, il y en a plusieurs de l'ancien collectif. Aussi, en parallèle, ils n'ont pas énormément clippé leur musique, Bicep. Mais ils en ont fait quelques-uns, on en reparlera plus tard. En tout cas, ils en ont sorti un récemment, Apricot, donc un single tiré de leur dernier album qu'on essaiera de passer si on a un peu de temps, parce que c'est quand même pas mal du tout aussi. Qui est-ce qui enchaîne là-dessus ?
Moi, je peux enchaîner. Là, je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Machine Drum, qui est aussi sur Ninja Tune. J'ai choisi de le prendre dans la sélection, non pas pour ses clips, mais pour la pochette de son dernier album, qui s'appelle View of You, qui est sorti le mois dernier. C'est un album que j'ai beaucoup beaucoup écouté récemment, qui m'a beaucoup marqué. Parce que la pochette particulièrement, c'est pas du tout mon style, pas du tout à mon goût, mais je trouve ça drôle que ça soit sorti sur un label comme Ninja Tune qui est réputé pour son goût visuel.
Et au final, ça rejoint un peu ce que disait François tout à l'heure avec l'aspect un peu futuriste science-fiction d'Amon Tobin. Même si là, c'est un peu. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais.
Je trouve que c'est moche, hein, clairement.
Ouais, c'est particulier.
C'est ce que je trouve sur cette pochette, c'est pas très beau. Après, je comprends qu'il y a des gens qui aiment ce style-là, mais moi, j'ai trouvé ça étrange que ça sorte sur Ninja Tune. Une cover comme ça, mais l'album est d'excellente facture. Machine Drum, c'est un artiste qui a été découvert à la fin des années 2000. Là, c'est quand même son 9e album solo, et il me semble que c'est son 4e sur Ninja Tune. Donc là, j'ai décidé de vous passer la track qui s'appelle A View of You, qui est une track drum and bass avec la voix d'un chanteur qui s'appelle Jesse Boykins 3. Moi, c'est ma track préférée de l'album, et comme pour celle de Bicep tout à l'heure que j'ai passé, c'est un truc qui fait bouger, quoi, qui fait dodeliner de la tête.
En plus, l'album, pour l'avoir eu entre les mains, le vinyle, ce qui est incroyable, c'est que là, on se rend pas compte forcément sur une image comme ça, mais par exemple, le miroir au milieu, c'est vraiment une sorte de miroir en plastique, quoi.
Ah ouais.
Ils ont fait des choses de matière et...
Ouais, et ils ont fait des... En fait, c'est une sorte de... Alors là, il faudrait vraiment avoir que tout le monde l'ait devant les yeux, mais par exemple, le fond est un aplat. Et ensuite, il y a un bosselage fait sur tout ce qui est cette forme un petit peu étrange, là, un peu multicolore, qui est très à la mode, d'ailleurs, de faire ce genre de jeu lumineux, là. Et ensuite, au milieu, c'est une autre matière. Donc, comme je disais, une sorte de miroir en plastique. Donc, qu'on aime ou on n'aime pas, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que moi aussi, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément graphiquement. Mais en tout cas, c'est très réussi en termes d'objets, quoi.
Ok. Ouais,
donc, on voit qu'il le pousse encore, le Ninja Tune, encore toujours un peu plus, quoi.
Ok, mais c'est aussi l'intérêt, du coup, d'acheter en physique et pas avoir que la photo en streaming, quoi.
C'est vrai que ça peut changer la donne, hein, en l'occurrence.
Complètement. Donc, Nico, vas-y, tu peux envoyer la track Waiting for You de Machine Drum. We'll be right back. Waiting for You de Machine Drum avec Jesse Bawkins 3 sur l'album A View of You sorti le mois dernier sur Ninja Tune.
Ben c'est bien efficace, hein, même si ouais. On n'est pas tous d'accord sur le visuel en tout cas, mais musicalement ça doit rassembler ouais. pas mal de monde.
Et vraiment, l'album est vraiment vraiment cool. Il me semble qu'il n'est pas très très long, il y a 11 tracks dessus, il passe très très bien. Et il n'y a vraiment rien à acheter. Hein. C'est pas un album qui ça n'invente rien dans de nouveau, mais ça, c'est une bonne synthèse de ce qui se fait dans la basse musique un peu actuellement. Il y a un super featuring avec un rappeur, j'ai oublié le nom.
Freddie Gibbs.
Ouais, Freddie Gibbs, voilà. Et la chanson, elle est en prog justement sur Prune en ce moment, et je vous conseille d'aller écouter ça, c'est très 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 très, très bon.
Et oui, on a même fait d'ailleurs une autre émission auquel je participe qui s'appelle Sonoria sur cet album. Ah on ne ouais. fait que de parler Ninja Tune sur Prune.
<C'est clair.
rire> Rien d'étonnant. Et moi je vais enchaîner du coup avec un petit retour dans le passé encore une fois, avec un morceau qui date de 2003. Qui s'appelle Basin Street Blues de Kid Koala. Donc c'est un morceau à la base de Louis Armstrong, hein, que Kid Koala s'est amusé à retravailler avec ses platines, puisque c'est un peu sa spécialité, hein, c'est-à-dire qu'il travaille vraiment à l'ancienne. Il travaille à quatre mains un petit peu, des fois, comme on peut le dire. Il a pas mal de platines, et en scratchant, en faisant des boucles, en faisant des passe-passe, il recrée des morceaux, donc c'est ce qu'il fait aussi en live. Et vu qu'on parle là d'une émission avec des univers graphiques assez spécifiques, lui il a un univers un peu à l'opposé, je trouve, de ce qui se fait chez Ninja Tune. C'est-à-dire que c'est très enfantin, ça fait très dessin animé, voilà, ça c'est pas du tout ce qui se fait d'habitude. Et c'est lui qui fait tous ces petits personnages. Et ce qui est marrant, c'est qu'en live, il a un tableau blanc et il s'amuse à, quand il a un peu de temps, à faire des petits dessins de personnages. Voilà, il communique avec le public de cette manière-là. Et du coup, c'est assez sympa, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, il nous fait un petit peu de dessin dans ces petits personnages qui jouent de la trompette, et puis après, il va scratcher sur de la trompette.
Il n'y a pas Mr. Scruffs aussi qui a un univers un peu enfantin et cartoon?
Effectivement, maintenant que tu le dis, Mr. Scruff a cet univers très proche, donc il n'est pas si singulier.
Mais bon, ils sont pas nombreux quand même sur Ninja Tune à faire ça,
non,
en tout cas.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, on peut confondre un petit peu des fois leurs deux univers qui se ressemblent vachement. Mr. Scruff ne s'amuse pas, je crois, à dessiner de cette manière-là. Et aussi, ce qui est marrant avec Kid Koala, c'est qu'il était à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, enfin, je sais même pas s'il fait encore des tournées, mais il était déguisé vraiment en koala, quoi. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il avait une combinaison intégrale comme une sorte de pyjama pour enfants de koala, quoi.
Ok.
Et voilà, donc on va écouter un morceau qui détonne un petit peu, hein, je trouve, par rapport au reste de Ninja Tune, qui, bah, à part Mr. Scruff aussi, qui travaille à peu près de la même manière. C'est donc le morceau Bassin Street Blues de Kid Koala, sorti en 2003 sur l'album Some of My Best Friends Are DJs.
Right now, we're gonna get together and give you a tune that we have a lot of requests for. It's our version of C'est donc le morceau de Kid Koala qui s'appelle Bassin Street Blues que vous venez d'écouter sur Modulaire.
C'est marrant ce petit effet, ce petit aspect un peu dissonant dans la musique. Je m'attendais pas. Enfin, Kid Koala, c'est vrai que je connais un vite fait l'aspect trip-hop.
Bah, c'est vrai que c'est ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, il a chaque instrument sur un vinyle. Et donc il s'amuse vraiment à jouer avec ça, c'est-à-dire à scratcher là ce qu'on entend. L'aspect dissonant, en fait, c'est parce qu'il est en train de le scratcher, donc ça pitch le son, et donc ça crée une sorte de dissonance au moment. Donc en fait, il rejoue un petit peu le morceau de Louis Armstrong à sa manière. Et bah, c'est pour ça que c'est très intéressant de le voir en live.
Oui, c'est vrai. Ouais, à l'entendre comme ça, j'avoue, j'ai pas le réflexe de me dire que c'était juste le pitch qui bougeait. Mais ouais, en live, putain, ça doit être quelque chose, par contre.
Bah oui, et puis surtout que là, c'est un morceau donc où il expose pas son talent, mais plutôt justement où il le montre qu'on peut faire de la musique, comme tu dis, trip-hop, assez calme, et sans faire du C2C. Enfin, C2C a fait ça à peu près à cette époque-là, en plus, les démonstrations de skills de DJ, quoi.
Eh bien, merci, on va se dire au revoir, parce que ça se termine, l'émission se termine.
Déjà.
déjà, rapidement, c'est une émission spéciale, donc Ninja Tune, et surtout univers visuel et identité graphique lié à la musique, en l'occurrence à Ninja Tune et à Bicep. Justement, je voulais parler très rapidement du dernier album de Bicep, qui est également un concept album, et on va écouter Apricot en bed, et on va terminer là-dessus. Et juste pour que vous imaginiez un petit peu le clip, donc c'est des gros plans sur des visages, et on aperçoit la nature en même temps. Et il y a un peu cet effet, un effet vieille VHS un peu abîmé. Et ça a un peu rappelé directement le clip de Cold Cut avec Timber, qu'on a entendu en début d'émission. Et le concept en tout cas de l'album, c'est aussi de voir le mouvement des gens, des bras, des mains, danser au rythme d'une musique techno. Et ils découpent chaque mouvement de la main et recréent en fait une sorte de timeline de ce mouvement de danse. Bref, je vous invite à découvrir en tout cas les clips de Bicep présents sur leur chaîne YouTube pour leur dernier album. On se dit au revoir, merci à toute l'équipe, c'était chouette, une belle émission, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ouais, salut.
Salut.
Salut.